5h en temps universel, 7h ici à Paris.
RFI Matin, Clotilde Dumais.
Bonjour à tous. La France qui fait face à une troisième vague de chaleur avec des départements en vigilance rouge dès aujourd'hui. La canicule, la sécheresse aussi et leurs conséquences. On va en reparler dans nos chroniques et nos reportages au cours de ces 3 heures d'information qui commencent avec votre journal. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Clotilde Dumais. Bonjour à toutes et à tous.
Et à la une, la tête au carré pour la France. Les Bleus, premiers qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde.
Décidément abonné au dernier carré. C'est la troisième fois d'affilée que l'équipe de France de Didier Deschamps se qualifie en demi-finale de la compétition. La France tout en maîtrise et vainqueur 2-0 du Maroc en quart de finale. Match que vous avez pu suivre sur les antennes Afrique de RFI.
La frappe et le but pour l'équipe de France de Kylian Mbappé. Un bijou qui a surpris Yacine Bounou.
Frédéric Suto qui nous a fait vivre la rencontre hier soir depuis Boston. Il lui reste un petit peu de voix ce matin. On retrouvera notre envoyé spécial dès le début de ce journal. Autre grand titre de l'actualité internationale ce vendredi, ces nouvelles frappes en Iran, notamment sur la ville de Bushehr, qui abrite la seule centrale nucléaire encore active dans le pays, au moment où l'Iran enterrait le défunt guide suprême Ali Khamenei. Nous serons aussi au Sénégal où Bassirou Diomaye Faye remporte une victoire à distance face à son ancien Premier ministre Ousmane Sonko, alors que le Conseil constitutionnel lui donne raison en censurant une révision de la Constitution. Et puis enfin, le très conservateur sénateur de droite Jean-Noël Buffet, pressenti comme futur défenseur des droits en France, ce qui ne passe pas du tout auprès des associations de défense des droits de l'homme, vous l'entendrez.
La France fonce donc tête baissée dans cette Coupe du Monde. Les Bleus, encore une fois, dans le dernier carré de la compétition.
À la troisième fois de suite, Clotilde, seul le Brésil et l'Allemagne ont fait aussi bien dans l'histoire du mondial. Des Français qui enchaînent une 6e victoire de suite. La 3e sans prendre de but dans ce tournoi. Succès 2-0 face au Maroc en quart de finale. Grâce à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, un match maîtrisé. Qu'a donc suivi pour nous notre envoyé spécial Frédéric Suto, en ligne avec nous depuis Boston. Bonjour Frédéric.
Bonjour Martin.
Et 1, et 2, et 3 demi donc pour les Français qui se qualifient pour la 3e fois de suite en demi-finale de la Coupe du Monde. Des Français portés une nouvelle fois par une attaque de feu.
Oui, attaque de feu avec ces 4 mousquetaires, on va dire, Mbappé, Dembélé, Olysée, et puis le duo Doué-Barcola, puisque l'un remplace l'autre. On compare cette équipe au Grand Brésil des années 70, parfois, avec ce jeu de passe le plus souvent léché, et puis cette capacité à toujours trouver une solution. Ça a encore été le cas ce jeudi soir à Boston. Les Français auraient pu s'impatienter en voyant Yacine Bounou, le gardien marocain, multiplier les parades dans son but en première période notamment. Il a même arrêté un pénalty de Kylian Mbappé. Mais les Bleus ont continué, ils ont insisté, une façon aussi de montrer à l'adversaire, au Lion de l'Atlas, eh bien qu'ils ne les laisseraient pas avoir leur chance dans ce match. Un Maroc étouffé, puis résigné. Ce qui est assez incroyable, Martin, c'est que cette équipe de France, elle en est à 16 buts marqués depuis le début du Mondial, tous marqués par des attaquants. Vous avez quand même d'ordinaire un défenseur, un milieu de terrain qui marque de temps en temps. Là, non, ce ne sont que les attaquants, ceux qui brillent, les stars, les flèche irrésistible. La prime revenant à Kylian Mbappé, 8 buts, et Ousmane Dembélé, 5 buts depuis le début de la compétition.
Voilà, 4 fantastiques à la tête de l'attaque française et un ancien milieu défensif qui mène tout ça, un général, un vrai perle à victoire de cette équipe de France, un certain Didier Deschamps, bien sûr.
Oui, il est en train de laisser une trace indélébile, Didier Deschamps, en poste depuis 2012. Sa première Coupe du Monde, 2014, ça s'était arrêté en quart de finale. Il avait appris 4 ans plus tard, 2018, le titre mondial. 2022, la finale perdue contre l'Argentine, mais finale encore. Et puis là, nouvelle épopée qui est en marche. Bien sûr, il peut s'appuyer sur les joueurs exceptionnels dont on vient de parler, cette génération qui arrive à point nommé. Mais c'est aussi, et avant tout ça, réussir à lui de savoir à chaque fois depuis 14 ans se réinventer, s'adapter aux joueurs dont il dispose. Il y a 4 ans, le style de l'équipe de France au Qatar était beaucoup plus défensif. Là, Didier Deschamps accepte de lâcher les chevaux. Il sait qu'il ne sera plus sélectionneur à la fin de la Coupe du Monde. Et c'est comme si là, avec la confiance totale de ses joueurs, il libérait, Martin, toutes les énergies.
Voilà, des Bleus pleins d'énergie. Et vous aussi, merci beaucoup, Frédéric Suto, depuis Boston sur RFI. À noter que Kylian Mbappé a été élu homme du match, lui qui a inscrit son 8e but dans le tournoi. Il rejoint ainsi Lionel Messi en tête du classement des buteurs. La France qui jouera sa demi-finale mardi prochain, elle attend désormais son adversaire. Ça sera soit l'Espagne, soit la Belgique qui se retrouve à 19h temps universel à Los Angeles. Un match qui sera à suivre ce soir sur les antennes Afrique de RFI.
À la une également ce vendredi, Martin, le dernier adieu d'un pays à son guide suprême.
6 jours de funérailles nationales qui se sont achevées cette nuit à Machad, ville natale d'Ali Khamenei, inhumé tout à l'heure. L'ancien dirigeant à la tête de l'Iran depuis 1989 est mort le 28 février dernier, au premier jour des frappes américano-israéliennes sur Téhéran. Cérémonie marquée par une immense ferveur populaire et par des appels à la vengeance, alors que de nouveaux affrontements ont éclaté ces deux derniers jours entre les États-Unis et l'Iran. Il s'agit de la reprise des hostilités la plus importante depuis la signature le 17 juin d'un protocole d'accord. Un adieu à l'ancien guide suprême marqué également par une absence, celle de son fils et successeur désigné, Mojtaba Khamenei, qui n'a jamais été vu en public depuis la mort de son père. Une absence qui interroge, nous dit le chercheur Jonathan Piron, spécialiste de l'Iran.
Le régime iranien a affirmé que la non-présence de Mojtaba Khamenei se motivait en fait pour des raisons de sécurité. Et il est vrai maintenant que les frappes qui sont réalisées par les États-Unis tentent à légitimer ce discours. Mais on est quand même aussi dans une situation où beaucoup de questions en fait demeurent sur l'état de santé réel du nouveau guide iranien. Est-il toujours blessé? Dans quelle mesure est-il réellement aux manettes en fait du pays? On est peut-être aussi dans une situation où aujourd'hui, à la différence du règne d'Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei est peut-être plus une espèce d'arbitre, en fait, de coordinateur entre les différentes factions, que vraiment la personne qui représente le centre de décision comme était son père. Et donc, il faudra voir dans les semaines et dans les mois à venir comment ce nouveau pouvoir va s'organiser. Cette absence est peut-être à la fois une faiblesse du nouveau régime, mais aussi le signe que la manière de décider à l'intérieur du régime iranien change. Et il faudra attendre justement, en fait, à court et à moyen terme de voir clairement les impacts de ce changement de direction.
Des propos recueillis pour RFI par Oriane Verdier. Donald Trump et Benjamin Netanyahou se sont appelés hier soir. Le président américain a informé le premier ministre israélien des derniers mouvements américains dans le Golfe, alors que l'Iran indique qu'une installation militaire a été visée hier près de la ville de Bushehr, qui abrite la seule centrale nucléaire du pays en activité. Le ministère américain de la Défense a démenti être à l'origine de cette frappe. De son côté, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a affirmé que son pays était prêt à attaquer l'Iran une troisième fois si nécessaire. Encore plus durement, a-t-il ajouté.
Après les attentats de mardi, la Syrie arrête des membres d'une cellule affiliée au groupe État islamique.
C'est en tout cas l'annonce faite par les autorités syriennes après ce double attentat survenu pendant la visite du président français Emmanuel Macron. Une double explosion qui a provoqué la mort d'une personne et blessé 36 autres. Ça s'est passé à proximité de l'hôtel où avait séjourné le dirigeant français. Les responsables sont désormais entre nos mains, a affirmé le ministre syrien de l'Intérieur, Anas Ratab. Les auteurs présumés ont été arrêtés dans différents secteurs de Damas, notamment dans deux quartiers de la capitale, abritant une forte communauté alaouite, dont est issu le clan de l'ex-président Bachar el-Assad, chassé du pouvoir en décembre 2024.
Moscou lance un avertissement à Kiev au moment où l'Ukraine intensifie ses frappes.
Une escalade qui ne fera que prolonger la guerre, prévient le Kremlin. Alors que l'Ukraine multiplie depuis des mois les frappes de drones sur les raffineries, sur des dépôts de pétrole et des cargos en mer, ce qui a provoqué une pénurie de carburant en Russie. Des frappes ukrainiennes qui ont fait 38 morts en Russie la semaine dernière, selon Moscou. Et ce alors que le président américain Donald Trump a donné l'autorisation à l'Ukraine de produire sur son sol des missiles Patriot. Des détails techniques doivent encore être réglés, a précisé le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky. Des missiles indispensables contre les missiles balistiques russes, qui touchent par exemple quotidiennement Zaporijja dans le sud de l'Ukraine. La ville qui était aussi la cible des drones FPV, petits engins chargés d'explosifs, face auxquels policiers, secouristes et civils sont impuissants. Reportage Luc Alazo.
Maxime est un jeune officier de police de Zaporijja. Il claudique, la main ferme sur sa béquille, la jambe recouverte d'épais bandages.
En réalité, j'ai eu énormément de chance. L'éclat qui est entré dans ma jambe est passé à seulement 2 cm de l'artère. Il est entré là, puis il est ressorti par ici.
Deux jours plus tôt, il intervenait avec ses collègues sur les décombres d'un bâtiment ciblé par une frappe russe en plein centre-ville.
Lorsque j'ai commencé à documenter les dégâts, tout est arrivé soudainement. Je n'ai rien entendu, je n'ai pas eu le temps de voir le drone. Simplement un flash, puis un bourdonnement dans mes oreilles. J'ai baissé les yeux et je me suis rendu compte que ma jambe était déjà couverte de sang.
20 minutes après la première frappe, un petit drone FPV surgit à son tour, équipé d'une caméra et piloté à distance depuis les lignes russes. Il cible l'intervention des secours. C'est la hantise d'Oleksandr Setchov, le directeur de la défense civile. Il équipe désormais ses hommes comme s'ils opéraient sur le front.
Beaucoup de nos véhicules sont équipés d'une protection supplémentaire, notamment des grilles spéciales. La cabine est renforcée pour mieux protéger les équipes contre les éclats. Ces véhicules sont également dotés de systèmes de brouillage électronique. Lorsqu'on intervient, on les active pour tenter de neutraliser les drones ennemis.
Zaporizhia Alexander redoute désormais un scénario à la Kherson, une ville où civils et secouristes sont harcelés quotidiennement par ces drones kamikazes. Lucas Lazo, de retour de Zaporizhia, RFI.
À l'Ukraine, par ailleurs, une enquête a été ouverte à Lviv, la grande ville de l'ouest du pays, où l'enrôlement d'un jeune homme par des militaires a engendré des échauffourées. Deux procédures pénales ont été ouvertes. Elles concernent des militaires, des policiers et environ 200 civils, selon le bureau du procureur général.
Dakar, 92 FM.
À Dakar, il est 5h10. Le Conseil constitutionnel dit non à la réforme de la Constitution.
Un conseil saisi à la demande du président Bassirou Diomaye Faye, alors que cette révision avait été adoptée le 29 juin dernier par l'Assemblée nationale, présidée par son ancien Premier ministre Ousmane Sonko, et largement dominée par le PASTEF, une réforme qui devait revenir sur l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le Parlement. Le chef de l'État qui avait saisi le Conseil constitutionnel ce lundi pour violation de la procédure, et le Conseil des sages qui lui a donné raison hier soir, Léa Lisa Vesterov.
Pour justifier sa décision, le Conseil constitutionnel invoque une série de violations de différents articles de la loi suprême. Exemple, la décision d'accroître les moyens humains, matériels et budgétaires de la future Cour constitutionnelle sans prévoir de recettes compensatrices, contraire à l'article 82 de la Constitution, estime le Conseil des sages. Ou encore, le refus par le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, d'accorder à l'exécutif la procédure dite de vote bloqué, une disposition qui permet d'adopter une proposition de loi sans les amendements. La révision de la loi fondamentale telle qu'adoptée lundi dernier est donc déclarée contraire à la constitution du Sénégal. Pour le PASTEF d'Ousmane Sonko, à l'origine de cette proposition de loi, c'est un revers. Pour le chef de l'État, à l'inverse, une victoire politique. Bassirou Diomaye Faye reprend la main. Il va pouvoir réintroduire sa version de la révision de la loi suprême et la soumettre à un référendum s'il le souhaite, ou alors laisser cette réforme dormir dans un tiroir, car le chef de l'État n'est soumis à aucun délai pour organiser un référendum sur cette question.
Cause I see down yonder the soldiers have come. Julie, oh Julie, can't you see? Them devils have come to take you far from me. Mistress, oh mistress, I won't run. Cause I see down yonder the soldiers have come. Mistress, oh mistress, I do see, and I'll stay right here till they come for me. Won't go, leave this house and all you know. Julie, oh Julie, don't leave here. Leave us who love you and all you hold dear. Mistress, oh mistress, I will go. Leave this house and all I know. Mistress, oh mistress, I here. With what family I got left, they're all I hold dear. If they find that trunk of gold by my side, Julie, oh Julie, you tell them men that that trunk of gold is yours, my friend. Mistress, oh mistress, they find that trunk of gold by your side. Mistress, oh mistress, that trunk of gold is what you got when my children you sold. Mistress, oh mistress, don't you cry. The price of staying here is too high. Mistress, oh mistress, I wish you well, but in leaving here, I'm leaving hell.
ressenti, moi, un truc, que tout leur matériel leur sert à se mettre sur la même longueur d'onde que les gens qui écoutent cette fréquence. Il ne reste donc plus qu'une solution, il faut diminuer le volume de votre radio. Le mieux serait de la débrancher.
Débrancher la radio? Oh nom de Dieu, il a perdu la tête!
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9.
Je t'en prie, je ne plaisante pas, il faut que tu éteignes ta radio!
Mais enfin, pourquoi veux-tu que je fasse ça?
Ouais. 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 Micro test 1 2. Le genre qu'on gère est un mystère qu'ils ont pas découvert. Je persévère, balance du son façon trop sévère. Le faux devient vert et aussitôt il en persévère. Façon persévère, je veux pas que mon fils devienne mercenaire. Je veux qu'il aime sa mère et son dictionnaire. Visionnaire, missionnaire, idée fixée, prêt à vexer. Si ton questionnaire commence à me plaire, j'opère pépère. Si tu fais l'affaire, frère, ta part du bénéf, faut que tu récupères. Un monde austère, mes chers, les poings, les coudes et les dents. Ris pas résident, ça semble évident. Celui qui écrit une lettre au président. Le mec a du sang froid, que tu sens froid, tu distant. Celui qui écrit une lettre au président. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux mon nom, c'est peu fort. Impertinent. Celui qui écrit une lettre au président. Le mec a du sang froid, que tu sens froid, tu distant. Impertinent. Celui qui écrit une lettre au président.
Ouais. Un impertinent de plus, faisant face aux conséquences.
Ma façon d'envisager le rap est élémentaire. Par contre, quand j'ai fini mon couplet, c'est sans commentaire. Documentaire, comme la BU de la fac de Nanterre. Mensonge en enterre, envoie des mauvais songes en enfer. Persévère, pour qu'unité soit entité, que la réussite choque. 1, 2, ça suffit pas, ça me suffit pas. J'en veux plus, des frères qui réussissent, des pneus qui crissent, des virages, que nos voeux ne soient plus des mirages, des visages joyeux, paysages joyeux, mon vieux, mieux, vaut tard que jamais j'y eux. T'avoue que je crois pas au monde merveilleux ici-bas. Des belles images, c'est pour Sony et Toshiba. Pariba, passe à l'action, fais mon boulot. Remplace tease et bêtises par montée de l'oscilloscope. 5 ans prévu pour droite et l'extrême, je m'incruste en intrus. On voit l'instru, me v'là sur la scène. L'impertinent,
celui qui écrit une lettre au président.
Le mec a du sang froid, que tu sens froid, tu distant.
L'impertinent, celui qui écrit une lettre au président. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux mon nom, c'est peu fort.